Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.
Bonjour, marhaba bikoum.
Bonjour.
Welcome.
Bonjour.
Bienvenido. Grazie.
Bienvenue. Merci de l'invitation.
Merci d'être là. Excusez un peu les petits dysfonctionnements depuis ce matin. Nous recevons sur Radio Rage la voix des jeunes ce matin qui est présente au festival international Racontar, le 14e du nom. Deux troupes, une troupe qui s'est créée pour l'occasion de Racontar et un historique de la chanson engagée algérienne et autres d'ailleurs. Donc je commencerai par le dernier cité, Mziane Ourad, qui se présentera un peu plus tout à l'heure, fondateur, un des fondateurs de la mythique et l'historique pour nous algériens en tout cas, de la troupe Debza, qui s'est créée dans le courant du mouvement culturel et identitaire et non moins politique et démocratique de l'année 1980, qui est également un ancien détenu, un des détenus de 80, suite aux manifestations 80 et, m'a-t-on dit, également de 81. Voilà. Merci d'être venu, Tanimir Tiatek Sahara.
Merci à la Radio Rage de m'inviter.
C'est la moindre des choses.
Non, ça me plaît bien de venir chez Rage, pas dans le mouvement politique, dans une radio de Rage, parce que j'apprécie le travail qu'ils font depuis toutes ces années pour la démocratie et puis pour les populations les plus opprimées en Algérie. Donc pour moi, c'est vraiment un plaisir d'être là.
Véritablement, c'est un honneur pour nous de vous recevoir.
Merci.
Véritablement, franchement. Honneur maintenant aux invités, trois autres invités. Donc je commencerai par Madame Leïla Sage, voilà, une chanteuse, qui se présentera un peu plus tout à l'heure, qui fait partie d'un groupe qu'elle présentera elle-même. Il y a également qui l'accompagne avec elle, Monsieur Lorenzo Valera, voilà, qui a, je précise, un tatouage de l'Almano Negra sur l'avant-bras droit, qui est quand même à noter pour quelqu'un qui est engagé. Et puis nous avons également Nicolas Potin, qui est à ma gauche, que physiquement à ma gauche. Voilà, donc je vous demanderai les uns les autres, l'une et l'autre, de vous présenter. Ils ont créé pour l'occasion de Racontar un groupe pour l'occasion, ils en parleront, mais ils font chacun et chacune partie d'un groupe et qui chante des chansons engagées, des chansons du terroir, si j'ai bien compris. Donc honneur à Leïla Sage.
Alors oui, on chante depuis quelques années avec Lorenzo. Moi je suis française, mais j'ai vécu pendant presque 10 ans en Italie, où j'ai découvert le chant populaire. C'est joli comme expression, chant du terroir. Non mais j'aime beaucoup, on réutilisera. Et donc du chant populaire et du chant de lutte que j'ai appris là-bas, dans une chorale qui s'appelle Voci di Mazzo à Milan, avec le maestro Angelo Pugolotti, qui nous a transmis de nombreux chants et surtout l'esprit du chant populaire. C'est bien, on est bercé aussi par le bruit de la moto.
Absolument, qui fait partie de la localité.
Exactement, et du terroir.
Merci. C'est le nom de le mot de la journée.
Tout à fait. Et voilà, donc on a constitué avec Lorenzo une petite formation qui a formation variable en réalité. Donc on a un projet qui parle de l'unification de l'Italie, de la voix des non-entendus autour de l'unification. Et puis là, pour cette occasion-là, on a eu envie de proposer des chants avec Nicolas, qui s'occupe aussi de chants populaires. Et donc on s'est rencontrés sur ces chants des rituels paysans, mais aussi des travailleuses du riz, pas seulement. Voilà, les chants qu'on avait, qui nous plaisent aussi, qu'on aime, qui sonnent.
Vous nous parlerez un peu plus tard, un peu plus précisément, de l'unification de l'Italie.
D'accord, je crois que je vais laisser la parole à Lorenzo là-dessus.
Donc, on m'a déjà fait un coup d'état, c'est déjà Leïla qui dirige le plateau. Lorenzo, à toi.
Alors, moi, je viens d'Italie. Je suis né à Milan. J'ai vécu pendant beaucoup d'années à Milan et je viens de déménager. Maintenant, j'habite à Marseille depuis 2 années. Donc oui, il y a tout le temps des croisements, on se déplace beaucoup. Et oui, Laïla l'a déjà raconté, on a commencé un peu dans la même association qui c'est Voci di Mezzo, ça veut dire voix des milieux. C'est les voix des milieux, on pourrait dire dans les milieux de l'histoire, dans les milieux des conflits des classes. On pourrait dire dans plusieurs milieux, mais c'est les voix qu'on essaie de redonner aux gens qui ont été à qui on a volé la voix. Donc tous les gens qui n'ont pas trouvé sa place dans l'histoire officielle et qui en a ignoré tout le temps. Donc c'était un peu ça l'idée de retrouver ces chants pour redonner une voix à une histoire qui a été oubliée. Donc ça c'était
qui a été peut-être volontairement oublié.
Ben oui. Oui, il y a eu, on en parlera, je crois, quand on parle de l'unification d'Italie, il y a eu tout un projet d'effacement des classes sociales dont la voix, on n'avait pas envie d'écouter. Et après, on a monté ce autre projet qui s'appelle Les Chants des Grenouilles, et qui c'est un projet de plusieurs spectacles sur l'histoire d'Italie à travers les chants engagés, à partir de l'unification d'Italie. Et là, c'est un projet qu'on a avec une autre copine qui joue de clarinette. Donc, c'est un projet de théâtre et chansons dans lequel on raconte toute l'histoire d'Italie à travers les chants engagés.
Donc, ce n'est pas seulement les chants, c'est aussi du théâtre.
Oui, du théâtre, c'est peut-être beaucoup dire. On va dire une conférence chantée. Oui. En fait, c'est plus de la narration. Voilà, ça me tient vraiment à cœur de proposer ces chants-là et de leur redonner leur contexte et les voix de ceux qui les chantaient. Mm.
Et l'autre activité très importante, c'est l'activité des stages, des ateliers, des transmissions. Pour nous, c'est très important de transmettre ces chants-là, qu'en Italie même, personne connaît, presque personne connaît. C'est beaucoup perdu, c'est une tradition qui s'est perdue. Même la tradition du chant, en Italie, on l'a perdue.
Vous parlez de chants de quelle époque, à peu près ? Quelle période du siècle dernier ?
Pour le projet du Chant des Grenouilles, on part de 1860 jusqu'à 1900. C'est le premier épisode. Mais on chante des chants qui sont beaucoup plus anciens, avec les modalités vocales qui vont avec. Et c'est des chants qui chantaient, il y en a certains, on a beaucoup de mal à les dater. On chante des chants qui du Moyen-Âge. Oui, certains du Moyen-Âge. Oui.
Et on arrive à peu près aux années 70. On arrive jusqu'à ces années parce que c'est les années où en Italie on a perdu la tradition orale. Donc c'est les derniers chants de la tradition orale, c'est les derniers chants qui ont été transmis par transmission orale. Après, il y a l'industrie discographique, donc ça change. Il y a des belles choses et des choses très importantes quand même, mais c'est pas notre domaine. C'est ça. Okay.
Nicolas Potin, parlez-nous un peu de vous.
Alors.
Ou un peu ou beaucoup.
Non. Oui, un peu beaucoup, tu me couperas. Hein. Encore une fois, merci de cette proposition, merci de ce festival parmi les gens qui nous écoutent. Il y a peut-être des gens qui participent, c'est une belle chose et on est assez content d'être là. Moi, je me retrouve ici parce que sur invitation de Laïla et Lorenzo, ils disaient tout à l'heure qu'ils avaient une formation à géographie variable. Et bien, ce coup-ci, c'est moi qui m'y colle, je viens les seconder. Mon parcours est un petit peu différent. Moi, je vis à Toulouse, donc dans le sud de la France, près de la frontière espagnole.
Une ville de lutte, en général.
Une ville de lutte qui a, notamment, historiquement, dans les luttes ont été très marquées par l'arrivée des républicains espagnols qui avaient fui le régime franquiste à partir de 1938, 39-40. Et donc, on a... Et dans ma chorale... puisque c'est notamment de ça dont je vais parler pour commencer. Moi, je découvre le chant il y a quelques années par des chorales qu'on appelle chorales politiques, chorales de chant politique, qui sont créées, animées, et qui dont les gens qui les font vivre sont des gens qui sont pas forcément des gens qui savent la musique. Par exemple, c'est pas mon cas, et donc une chorale qui s'appelle, on aime bien les jeux de mots dans ce genre-là, donc la chorale s'appelle la Canaille du Midi, qui est une allusion à un canal qui passe par la ville de Toulouse qui s'appelle le Canal du Midi. Et donc dans la Canaille du Midi, on fait vivre année après année un répertoire de chants de lutte, de chants politiques. Sur un spectre assez large, il y a des chants communistes, il y a des chants socialistes, il y a des chants anarchistes. Et ce qui relie un petit peu tout ça, ce sont des chants anti-autoritaires. Et qu'on essaye, ce qui le relie surtout, c'est notre manière de les porter dans la ville. Donc moi, ça fait quelques années que je participe à ce groupement. Et en fait, on chante dans les manifestations, On chante quand il y a des expulsions de lieux ou de personnes. On chante contre des projets de construction de barrages ou des constructions d'aéroports. Donc c'est toujours en phase, où on essaye, du fait que ça soit toujours en phase avec une lutte, on ne va pas chanter pour les anniversaires, même si on fête autrement nos anniversaires. On ne va pas chanter pour faire plaisir à nos amis, même si on aime bien faire la fête. Mais on essaie d'avoir un outil de lutte. Et ce qui nous relie, puisque pour la plupart, ce sont des gens qui sont militants, qui sont militantes dans des organisations politiques, des organisations syndicales. Et donc on pallie le fait qu'on ne sache pas la musique par peut-être la joie d'avoir trouvé un outil dans lequel on peut se réapproprier de temps en temps des rues et peut-être dynamiser un petit peu ou dynamiter des cortèges où parfois on s'ennuie trop quand il y a des sonos électriques où en fait on a toujours les mêmes disques qui passent.
Des chants à sens en fait.
Oui, des chants à sens, et on aime bien raconter de quoi ça passe.
Gauche.
Ah ouais, je disais, on a un spectre assez large. Voilà, les chants anti-autoritaires, on a des chants vraiment, on a des chants écologistes. Ça dépend en fait de pourquoi on chante. Donc on a un répertoire qui est peut-être d'une centaine de chansons, j'exagère en disant ça, 80, 70. Et quand on a un concert à faire, on regarde pour qui on chante. Si on chante pour le planning familial, on a une série de chants féministes. Quand on chante parce qu'il y a énormément de problèmes d'homophobie en France, donc on a des régulièrement, mais je rentrerai peut-être dans les détails plus tard, on a des chants sur les questions d'homosexualité, on a des chants sur des questions environnementales, et on a beaucoup de chants sur notamment la politique locale ou nationale, contre l'extrême droite, des chansons... voilà, on pourrait faire la liste comme ça.
Racisme, antisémitisme.
Voilà, on a c'est des choses qu'on fait. On est sollicité, puisqu'on a, on essaie d'avoir des gens qui sont impliqués dans ces mouvements-là, mais c'est pas toujours le cas. Après, c'est une chorale qui a plus de 10 ans, donc maintenant on a un peu une assise dans la ville, et c'est pas rare qu'on soit contacté par des gens qu'on connaît pas personnellement. Voilà, donc pour me présenter, moi j'arrive dans le chant par ça. J'ai une petite passion et une petite obsession pour le chant, donc ça m'a amené à aller rencontrer des chorales sœurs qui font les mêmes choses dans d'autres villes. Et à une de ces occasions-là, j'ai rencontré Laila et Lorenzo, qui faisaient un concert organisé par une chorale qui partage certaines des valeurs qu'on vient d'évoquer. Et voilà, c'est le début d'une histoire. Après, c'est encore une histoire assez récente. C'est la seconde fois qu'on faisait un concert ensemble. Donc voilà, on va pas se raconter des histoires. Moi, je suis encore un petit poussin là-dedans. Mais en tout cas, c'est un grand plaisir. Qui sait. Et en tout cas, voilà, on se retrouve aussi sur des engagements politiques et ça va bien au-delà du chant. Le chant est un vecteur.
Je suppose.
Voilà ce que je pouvais
c'est
dire.
Une des questions justement que tu m'amènes à poser, c'est vous êtes aussi des militantes et des militants. Vous n'êtes pas. Le chant n'est pas le principal moteur de. C'est une question. Des revendications, enfin de, vous avez des idées bien évidemment politiques, peut-être que vous êtes des militantes et militants de partis politiques, d'organisations syndicales ou autres.
Alors, je peux commencer à répondre et je fais ça brièvement. Moi, je fais pas partie d'un parti politique, je suis pas adhérent à une organisation. Par contre, sur la ville de Toulouse, je fais partie de plusieurs collectifs autour de questions des sans-papiers. Ça, on l'a pas encore évoqué, mais en France, c'est un truc qui mobilise beaucoup les chorales dont je parlais. Collectif de sans-papiers, on a une lutte très forte sur Toulouse contre un projet de barrage. Et un jeune a été tué il y a 2 ans par la gendarmerie. Donc voilà, le genre de collectif dont je fais partie s'occupe de ça. Après, c'est des engagements ponctuels. On espère que c'est le plus court possible, puisque souvent ça veut dire qu'on a gagné. Mais bon, pour les sans-papiers, on peut courir. Mais en tout cas, pour les choses contre des projets spécifiques, et on parlera peut-être un petit peu plus tard d'un projet qui mobilise d'autres chorales en France, qui est un projet d'aéroport du côté de Nantes, le projet de Notre-Dame-des-Landes. Voilà, mais je vais peut-être laisser la parole sur les engagements spécifiques à Laila et Lorenzo.
Je repasse rapidement avant de revenir à Lorenzo et Laila par Mzienne. Oui. Que devient Mzienne? Que devient notre Mzienne?
Bizarrement, je ne suis pas très dépaysé à cette âme. D'abord parce que les combats que nous menons, chacun de son côté, sont similaires. D'autre part... je vais venir habiter Marseille dans pas longtemps. Je rentre de Marseille. Donc moi, ça fait un bon moment que je suis parti d'ici, depuis que le terrorisme a pointé le
nez. Début des années 90.
Oui, début des années 90. J'étais journaliste et j'étais un journaliste assez exposé parce que j'avais pas la langue dans ma poche, et particulièrement pour dénoncer l'intégrisme qui n'était plus rompant, mais qui était montant, qui était très menaçant. Donc je vis en France depuis un quart de siècle, un peu plus. à la fin des siècles. Mais je reste toujours en contact avec Dubza, bien entendu.
La troupe se produit encore ?
Oui, oui, bien entendu. En France, j'ai beaucoup activé l'association de culture berbère qui est à Paris, dans le 20e, qui travaille donc pour la promotion de la culture berbère, mais aussi sur les problèmes du quartier de Ménilmontant. Nous travaillons avec les enfants, avec, avec les gens déscolarisés, les illettrés. On a des permanences sociales, juridiques, etc. Donc, j'ai toujours apporté ma pierre à cet édifice-là. C'est une association qui a été très efficace pendant longtemps et qui l'est un peu moins aujourd'hui à cause de des réductions des subventions, bien entendu. Sur le plan du boulot, j'ai 62 ans. Je ne pense pas pouvoir retrouver du travail en France à mon âge. Je fais de... J'ai par exemple écrit pendant longtemps sur le Matin des Aides, un journal qui a été interdit en papier en Algérie, qui est interdit depuis longtemps, hein, depuis que Bentucou, son directeur, a été mis en prison.
2 ans.
Sous un prétexte fallacieux.
Comme d'habitude.
Et donc le journal a continué à vivre sur Internet et j'ai tenu une chronique, plus des papiers, quelquefois des reportages à partir d'ici, à partir de là-bas, sur les problèmes de banlieue, etc. Et, des fois, je m'essaye un peu à l'audiovisuel, en collaboration avec un journaliste de France 24, Malbi Chérif, Abdelzah. Le dernier produit qu'on a sorti, c'est un film sur le Cheikh Lasnaoui, qui est, comme chacun le sait, en tout cas ici, un des plus grands maîtres de la chanson algérienne, aussi bien en kabyle qu'en arabe, et qui est resté exilé depuis les années 30, qui est mort en exil, à Saint-Paul de la Réunion exactement, et il est enterré à l'île de la Réunion. Et paradoxalement, à l'île de la Réunion, il y a un square qui porte son nom. En Algérie, il n'y a pas une impasse qui porte son nom. Donc, si vous voulez, là aussi, c'est un engagement. C'est toujours dans le même ordre d'idée. En ce moment, je suis en train de préparer avec Hassan Ahlas, qui est devenu producteur, chanteur, donc, producteur audiovisuel. On est avancé à peu près 70% sur un film, le portrait, l'histoire de Bessaoud Mohamed Arab, qui a été le fondateur de l'Académie berbère, et qui lui aussi est mort en exil, il est mort à Londres, et il est enterré ici, en Kabylie. Si tu veux, toute l'histoire de la revendication de l'identité berbère est partie de cette académie-là et du combat de Bessaoud Mohamed Arab. Donc là, ce film-là est en train de se faire. Sinon,
au niveau des chants, de la musique, des paroles, il y a de l'écriture, il y a de la production.
J'écris. Moi, je suis resté très journaliste. Il y a énormément de gens qui me sollicitent, entre autres les maisons d'édition ici, même en France, mais pas les grandes maisons d'édition en France. Hein. C'est une édition assez marginale. Beaucoup de gens souhaiteraient que je raconte ne serait-ce que mon vécu. Pour l'instant, je ne suis pas encore décidé. Je ne suis pas encore beaucoup décidé à le faire. J'ai rigolé un jour parce que j'ai lu dans la presse algérienne qu'on avait érigé une stèle à Londres. En fait, c'était lors du passage à l'an 2000. Les Anglais ont décidé de tracer une ligne en marbre qui symbolisait la ligne de Greenwich. Et pour chaque pays traversé par les lignes de Greenwich, ils ont mis un énorme cercle de 4 mètres de diamètre et ils ont gravé un poème ils ont choisi 4 poètes par pays et ils ont gravé le poème, la traduction et une petite bibliographie. Et un jour j'ai été voir ce truc-là, donc je me suis retrouvé, proclamé par les Anglais poètes. Je n'ai pas continué dans cette voie, c'était des poèmes que nous écrivions quand nous étions étudiants à l'Université d'Alger, sur les marches d'escalier. Concomitamment au travail qu'on faisait avec Bibza, on faisait aussi de la poésie, parce que quelquefois, avant le spectacle, on donnait des concerts de poésie, des montages, on faisait des montages poétiques. Et une fille, le docteur Ferror Ferida et l'écrivain Nabil Fares ont ramassé certains de nos poèmes. Ils en ont fait un livre qui s'appelle Poésie du tiroir. Et les Anglais ont donc pris ce poème qui a été gravé chez eux dans ce livre. Et moi, je n'étais pas au courant. Voilà. Sinon, concernant Dubza, si tu veux, on peut revenir après.
Voilà, puisque, on reviendra après, ouais. Effectivement. Merci.
C'était le retour du cerveau.
Totalement, oui, tout à fait. Donc, je reviens à Leïla, Nicolas, entre autres, Lorenzo. On parlait d'unification tout à l'heure. Vous pourrez nous en dire plus, un peu ce que veut dire pour vous ce mot à travers un peu ce que vous produisez ou vous essayez de produire.
D'unification, sans parler de retourner à l'unification d'Italie, tu demandais tout à l'heure si le chant... était notre canal de lutte, qu'est-ce que ça représentait. Je me disais que probablement on aurait du mal à voir les branches, les racines, et le chant c'est des branches assez merveilleuses. Après, pour les racines, pour des gens qui voyagent beaucoup comme nous, on les fait voyager aussi, et l'unification c'est se rendre compte qu'on appartient à un réseau assez grand de lieux de lutte, de lieux qui proposent des alternatives culturelles, des lieux d'autogestion que nous on essaye à notre petite échelle de soutenir en allant y chanter, en participant aussi aux luttes qui sont en présence, aux activités qui s'y déroulent, etc. Et avec aussi cette conception un peu particulière sur l'économie, on tourne, Lorenzo et moi, depuis des années simplement par chapeau. C'est-à-dire qu'on n'a pas de cachet, on a toujours refusé le système de l'intermittence. Pas parce qu'on est contre, absolument.
Donc
pas, mais juste pas, pour nous,
c'est
hein, personnellement.
Qui refusez, c'est
oui,
pas...
mais c'est voilà, mais c'est pas du tout un débat sur l'intermittence ou quoi, mais on s'est trouvé beaucoup plus confortable dans des systèmes d'autofinancement, de soutien réciproque, de projets politiques, et donc on demande aux gens qui nous écoutent un soutien aussi des activités que l'on fait, donc pas en termes de valeur, de vente ou d'achat de la culture, mais vraiment en termes de soutien, de responsabilité réciproque. Et pour nous, c'est important d'avoir une autre... que ce soit pas les autoroutes culturelles, mais que ce soit un peu les chemins de traverse où on a l'occasion de faire des rencontres, comme on fait ici, par exemple, où ce qu'on met au bilan de nos activités, c'est pas simplement des questions économiques, mais c'est aussi des questions de rencontres, de ferment réellement politique et culturel.
Et les regards sur l'histoire, pour revenir à l'histoire de l'unification, c'est un regard qui nous a montré que dans l'histoire d'Italie, même dans les premières années de l'unification, donc on parle de la deuxième moitié des 1800, il y a eu plein d'expériences d'auto-organisation paysanne, parce que c'était la seule façon de survivre à un État qui lui enlevait tout. C'était un État qui s'est imposé sur toutes les populations d'Italie, un nouveau roi, tout simplement, parce que la République en Italie, elle est arrivée après la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y avait plein de populations, surtout du sud d'Italie, qui rêvaient l'arrivée de Garibaldi, les grands héros de cette époque italienne, comme un libérateur qui amenait des nouveaux valeurs, donc la République, etc. Et non, c'était encore un nouveau roi qui imposait des nouvelles taxes, une conscription obligatoire de 5 années, et à des populations qui étaient vraiment dans une crise continue. Donc en faisant ce parcours de spectacle, on a découvert que maintenant on est concentré sur les premières 50 années de l'unification, non? Que dans les premières 50 années, il n'y a pas eu un seul jour sans un soulèvement populaire, un débordement de colère populaire, mais à côté de ça, plein d'initiatives d'organisation, d'auto-organisation populaire, qu'aujourd'hui on a beaucoup perdu. Et tout ça, c'est très lié à ce que disait Laïla, de trouver des autres façons de gérer économiquement, dans la solidarité, dans les partages. C'est des choses qu'on a beaucoup perdues. Et l'histoire, cette histoire-là, peut nous apprendre beaucoup de choses. Il y a des peuples, comme les peuples siciliens, par exemple. Aujourd'hui, les peuples siciliens, il y a les stéréotypes du peuple sicilien, c'est un peuple qui est incapable de s'organiser. Si on va étudier, à la fin des 1800, il y a eu la plus énorme des auto-organisations paysans, c'était en Sicile. 100 000 personnes étaient impliquées dans des comités, comment on peut les appeler
des sociétés de secours mutuels.
Sociétés de secours mutuels dans toute la Sicile, et c'était grâce à ça qu'ils survivaient. Et tout ça a été régulièrement réprimé par l'État.
Réprimé et effacé de l'histoire officielle, de fait.
Donc, j'ai failli penser que vous parlez d'unification territoriale. Là, il ne s'agit pas de territoire, il s'agit d'unification des luttes, quoi. De méthode.
Là, on parle de l'unification territoriale qui a été faite par un roi avec des frontières, etc. Mais à côté de ça, il y a l'unification des luttes qui a été la vraie unification d'Italie. D'accord. C'est dans les luttes qu'on s'est retrouvés vraiment unis. La première lutte qui a appliqué toute l'Italie, c'était une lutte contre la taxe sur le grand moulu. Donc il y avait une taxe sur le grand moulu qui servait...
Le grand moulu.
Ah, le grand moulu.
Oui, et vu que le pain était le principal aliment des pauvres, ça fait augmenter le prix de la vie et ça a jeté les paysans dans un état de famine, etc. Oui.
Et c'était une époque où il n'y avait pas encore une direction politique très claire. C'était encore des luttes, comment on les appelle en français, les jacqueries.
Mm-hmm. Les jacqueries, oui.
C'était encore des jacqueries, mais il y avait une sorte d'unité nationale, effectivement, à travers les luttes. On le dit dans le spectacle, effectivement, qu'on peut dire que la vraie unification, ça a été pour lutter contre quelque chose. Et à second des situations et des moments politiques et historiques, c'est des luttes contre des taxes, des luttes contre la conscription obligatoire. Donc il y a une tradition des chants antimilitaristes très fort. Et à partir de la fin du siècle, c'est des luttes des femmes très fortes. Parce qu'il y a eu une époque où il y a eu une génération de femmes qui a été envoyée à travailler dans les légions, là où on s'est rencontrés. Ça, c'est plus facile pour toi peut-être l'expliquer. Moi, mon français, c'est fatigue un peu.
Ben oui, ces mondines-là, c'était donc des femmes qui descendaient de la montagne pour travailler en bas dans la plaine. Non, avec un travail extrêmement dur, elles travaillaient plus de 12 heures par jour. Elles étaient pliées en deux, enfin, c'était des conditions, elles étaient soumises à la malaria et surtout au coup de bâton du contremaître.
Par moment, on a, excuse-moi, l'impression que tu es en train de parler des femmes qui travaillent dans les champs et dans les montagnes de Kabylie.
Ah bah écoute, on l'a fait chez moi, je viens d'un tout petit village dans les Alpes et les femmes de mon village m'ont dit exactement la même chose, hein. On parle du monde paysan. Après là, on a des rizières, donc on va pas retrouver ce type de culture dans tous les endroits, mais on parle d'un monde paysan où il y a eu énormément de misère et énormément d'oppression aussi. Et ces femmes, elles ont développé un répertoire impressionnant avec une technique vocale particulière, puisque justement, on disait qu'elles n'avaient pas le droit de parler, elles avaient le droit de chanter. Et puisqu'elles étaient pliées en deux, elles ont dû travailler sur des résonateurs que l'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Mais en fait, ce sont des résonateurs qu'on entend ici aussi. C'est vraiment tout le pourtour de la Méditerranée, on retrouve des voix qu'on pourrait caractériser de nasillardes. Mais on dit souvent, hein, dans les stages, c'est pas des voix polies dans tous les sens du terme. Ce sont des voix qui étaient là pour, excusez-moi le terme, mais pour emmerder les bourgeois, pour revendiquer, pour se faire...
C'est Radio Rage, donc tu peux te lâcher.
Alors ça va, on peut se lâcher. Pas y aller trop fort, quand même.
Oui. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé les chants des grenouilles. C'est les chants des grenouilles.
C'est les grenouilles.
Un petit son, peut-être. Un petit son pour les auditeurs.
Oula, il va falloir que je m'éloigne du micro. La peine n'est pas. Senti le rane che cantano, che gusto per piacere, la sarella bisogna tornare al mio paese. E sa di, écoute les grenouilles qui chantent. Je retourne dans mon pays avec cette fierté-là. Et c'est incroyable, hein, parce que ce couplet-là, il a été complètement supprimé par l'industrie du disque dans les années 60. On l'a édulcoré, parce qu'on voulait pas se souvenir d'un passé qui était fait de lutte et puis de misère. Et donc, on l'a remplacé, je vous le chantonne, hein, on l'a remplacé par un autre couplet qui fait comme ça. Amore mio, yes. Non piangere, se me ne vado via. Voilà. D'accord. C'est ce qu'on a fait de ces chants-là. Donc c'est important de rappeler qui c'était, ces grenouilles qui chantaient dans les rizières.
Merci pour ce moment d'émotion.
C'est d'une puissance inouïe quand
absolument.
Même. Là.
Nicolas, peux-tu m'aider à faire la transition? Parce que là, j'ai perdu un peu des pédales avec cette voix.
Alors, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Rage, la voix des jeunes. Une radio libre pour une parole libre, c'est la virgule. Sur l'unification, moi je raconterai pas la même chose.
Et
voilà, moi ce qui m'a intéressé dans le travail de Laila et Lorenzo, c'est un travail sur une manière de chanter, la manière de raconter l'histoire à travers la grande histoire, à travers des petites histoires, une forme de poésie, la poésie chantée. Après, c'est pas mon parcours, voilà. Donc moi j'arrive. Ce qui m'intéresse, c'est que lorsqu'on fait des manifestations pour des caissières de supermarché, il n'y a pas de chansons des caissières de supermarché. Si on fait des chansons pour les gens qui font les centres d'appels téléphoniques, il n'y a pas les chants des standardistes téléphoniques. Et donc, venir travailler sur une manière d'écriture collective, une manière de transmission du chant, une manière d'être ensemble par le chant et transmettre des choses qui viennent peut-être de loin... Samia rappelait tout à l'heure, mais je ne sais pas si les auditeurs l'entendaient, mais on parlait de la transhumance, des choses qui disparaissent, et une manière de continuer à faire exister ça, moi la manière la plus efficace que j'ai trouvée, c'est le chant, c'est la musique. Et voilà, du coup, faire vivre ça par des concerts, des fois c'est un petit peu déconcertant de transmettre un patrimoine de chant qui est un peu daté, des mots qu'on n'emploie plus, des instruments qui n'existent plus, des métiers qui ont disparu, et pourtant... Moi, ce qui me fait, très personnellement, ce qui me fait vibrer là-dedans, j'ai l'impression que ça nous parle ailleurs. On peut se servir un petit peu. Après, voilà, je ne suis pas en train d'appeler les caissières de supermarché à écrire leurs propres paroles de chansons. Mais le truc, ce travail-là, et ça nous renvoie aussi des pratiques qui ont été perdues, peut-être. Et la plupart du temps, sont quand même des chansons combatives, et y compris quand ce sont des chansons tristes, ça parle quand même de moments où des vies basculent, parce qu'il y a une manière d'être ensemble, parce qu'il y a des combats qui sont menés, et encore une fois, même lorsque ce sont des combats qui sont perdus. Donc voilà, ça m'intéresse de faire travailler ça, mais moi je suis du côté français, même si je participe à un groupe qui chante en italien, je ne parle pas italien, voilà. Donc les parcours sont différents, mais je trouve intéressant de
me
continuer
permettre
à faire ça.
La transition, voilà. Justement, donc l'Italie qui vit en France, qui va vivre en France, la France qui va vivre en Italie, l'Algérie qui vit en France, ben, tout ça, qu'est-ce que vous faites à Racontar? Comment vous êtes arrivé à Racontar?
Alors moi, c'est depuis des années que j'ai connu Nadia Amour, donc une des sœurs Amour, on s'est connus toujours dans ces milieux que Nicolas a raconté, qui sont des rencontres, des chorales, pas que militants, pas que engagés, des chorales de chants populaires. Mais il y en a beaucoup qui font des chants de lutte. On s'est rencontrés là. Et c'est vraiment un phénomène intéressant qui se développe dans toute l'Europe. Donc des groupes qui organisent des rencontres. Et là, on échange les chansons. Chacun chante les chansons aux autres, les autres écoutent, on les apprend. Et après des années, tu peux les réécouter, traduits dans une autre langue, adaptés à une autre lutte. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est comme une espèce de... c'est comme si la tradition orale, à reprise, ça marche. Après s'être arrêté pour des années et des années. Et dans un de ces rencontres, on a rencontré Nadia. À l'époque, moi j'habitais en Italie, elle habitait à Paris, je crois, et maintenant tous les deux on habite à Marseille. Et c'est depuis des années qu'elle me disait, mais tu vois, tu aimes ces rencontres des chorales, etc., mais il faut qu'un jour tu viennes à Racontar. Et c'est des années qu'on en parle, mais on n'a jamais eu l'occasion. Il y a quelques années, on voulait venir avec la chorale, avec Voci di Mezzo, mais c'était une année très compliquée au niveau d'invitation, etc. Donc c'est par Nadia Amour qui nous a invités.
Et c'est votre premier passage à Racontar.
Exactement, oui.
Espérons que ce ne sera pas le dernier. On parle beaucoup d'Italie, et à juste titre. vous pensez, en tout cas j'ai ma propre idée, mais que ces exemples et cet historique, ce vécu de lutte, je ne parle pas spécialement de chant, mais de lutte, est transposable dans d'autres pays, en tout cas des pays méditerranéens, l'Algérie, la Tunisie, l'Espagne. Est-ce que vous voyez des similitudes dans ces luttes, de ces défaites, j'insiste sur momentané, parce qu'il faut les reprendre, les luttes. Voilà, est-ce que Mezienne...
Ce qui est important en Europe, c'est que si tous ces pays-là n'ont pas encore sombré dans l'extrême droite, dans le fascisme carrément, c'est parce qu'il y a justement tout ce mouvement associatif incroyable qui est en général porté par des élites qui sont fermement engagées à défendre les libertés qui ont été arrachées de très haute lutte, aussi bien en France avec la Révolution que dans d'autres pays avec la victoire par exemple en Italie contre Mussolini, contre les fascistes. Ça a été très dur. Contre le franquisme, d'autre côté contre le communisme pur et dur, etc. Donc effectivement il y a des similitudes, parce que même chez nous, je t'en souviens bien, c'est un peu le monde associatif, beaucoup de femmes, les journalistes et les artistes, c'est eux qui ont permis à l'Algérie de résister au terrorisme. On était au bord du gouffre, bien entendu, à l'armée qui a fait son travail. Mais regarde bien ce qui s'est passé. À un moment donné, il n'y avait plus de parole en Algérie. Et depuis,
c'est là qu'est né le RAJ.
Voilà, par exemple.
Dans ces années-là.
Et depuis que le terrorisme a commencé à reculer, il y a eu une éclosion d'actions culturelles, une éclosion, une multiplication incroyable de nombre de créateurs, aussi bien dans les arts plastiques, la chanson, la poésie, dans les publications de tout genre, aussi bien chez les arabophones que chez les francophones, les berbérophones surtout. Et oui, je pense qu'il y a des similitudes très palpables entre ce qui se passe ici et ce qui se passe là-bas, même si on n'utilise pas les mêmes moyens. Voilà.
Les spécificités. Un mot sur la transmission. Donc, franchement, vous avez eu une représentation ce matin, j'espère que ça s'est bien passé, que vous avez eu le monde que vous méritez. Je sais que maintenant vous allez animer des ateliers.
Exactement.
Donc il va vous falloir vous
c'est pour ça qu'on est un peu pressé,
relâcher. En tout cas, merci beaucoup de votre présence. Grazie mille. Je vous demanderai juste une deuxième, si c'est possible.
Cette fois-ci on va peut-être pouvoir chanter quelque chose ensemble.
À la bonne heure, merci.
Un petit couplet de Ignoranti.
On va chanter. Donc peut-être qu'il doit baisser un peu les micros parce que
qui a comme sens pour les auditeurs et auditrices.
Ignorante, c'était justement une des chansons de ces travailleuses du riz, donc c'est Les Ignorants, et c'était qu'à l'époque cette chanson-là, c'était...
Elle était écrite dans les années 50-1900.
Oui. Voilà, et c'était une chanson de revendication en disant il faut que nous apprenions à lire et à écrire pour lutter, pour avoir des instruments contre les patrons qui nous oppriment.
Et c'est très actuel parce qu'il y a un couplet où on dit mais les patrons, ils ont le pouvoir parce qu'ils ont la radio, ils ont les cinémas, ils ont les pouvoirs. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment apprendre à lire, à écrire.
Oui, et puis c'est un appel à la solidarité aussi,
oui.
Avant tout.
Ignoranti, senza scuole, campestati dal padron, noi eravamo la preva della terra, e in risaia come in una prigione, noi eravamo la preva della terra. Abbiamo risposto, siete sempre.
Merci beaucoup.
À plus tard, merci. On se retrouve. Merci à vous.
Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.